Bonjour, vous écoutez la Rawiyat Podcast. Dans chaque épisode, l'une de nos membres s'entretient avec une autre femme cinéaste d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou de la diaspora. Ensemble, nous explorons leur parcours de création, les défis qu'elles ont relevés et le travail remarquable qu'elles ont partagé avec le monde. Ces conversations célèbrent les voix et les visions qui façonnent les cinémas de notre région aujourd'hui. Je suis Amira Louada, artiste visuelle et réalisatrice, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Behia Benchir Al-Fagoun. À travers ses films, Behia capte des voix et des récits qui naviguent entre mémoire personnelle et collective, lutte sociale et quête d'identité. Son film « Nous dehors » explore les thèmes de la résistance et de la visibilité des femmes dans l'espace public algérien, tandis que « Fragments de rêve » reflète la désillusion de la jeunesse et le désir de changement en Algérie. Dans son prochain projet, elle s'intéresse à la vie et à l'héritage de Taous Amrouche, écrivaine algérienne, chanteuse et figure majeure du patrimoine culturel amazigh. Dans cette conversation, nous échangerons avec Behia sur sa pratique artistique, son processus d'écriture et son expérience en résidence à la Casa de Velázquez et à la Villa Albertine. Allons-y. Behia, bonjour.
Bonjour Amila.
Merci d'être là avec nous.
Merci à toi.
Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter comment le cinéma est entré dans ta vie et quelle est ta relation aux mots et aux images ?
Écoute, là tu me poses une colle parce que disons que j'ai plus une sensibilité au livre, tu vois, à l'écrit, aux mots qu'à l'image, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je sais que quand j'étais petite, moi je voulais écrire, adolescente, j'avais envie d'écrire des livres et tout. Et en fait, le cinéma, ça a été un hasard dans ma vie. J'ai commencé en tant qu'assistante, tu vois, et c'était assez fascinant. Tu vois, dans ce premier film, où quand j'ai vu un chef-op travailler, finalement, tu vois, c'est drôle, hein. C'était Mesad. Et comment juste, en posant la lumière, tout avait changé, tu vois. Et je me souviens que, voilà, je m'étais dit que si j'avais fait une école de cinéma, j'aurais fait ça, en fait. Et en fait, petit à petit, c'est plus parce que j'ai aimé travailler sur des tournages de documentaires que de fiction. J'étais plus dans mon élément, enfin, ça me ressemblait plus que je me suis orientée vers le documentaire. Et je crois que, effectivement, tu vois, quand je regarde mon travail, la question de l'image s'est posée après. La première question, c'était la question des mots et de la parole. De la parole en opposition au discours, en fait. Pas de discours, mais vraiment aller chercher cette parole profonde.
Et si je devais te poser la question plus directement, qui est Behia ? Et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et comment tu es arrivée là où tu es aujourd'hui ?
Moi, je suis moi. Enfin, je sais pas, je suis une Algérienne. Voilà, j'ai 48 ans, donc j'ai des enfants. Et en fait, c'est vrai qu'a priori, c'est pas la première des choses que j'aurais à dire là, mais n'empêche que, disons que, justement, avec l'âge, tu vois à quel point c'est un métier d'homme, et c'est un métier simple pour les hommes, et comment eux ont pensé les choses pour eux, en fait. Quand tu choisis la maternité comme moi, je l'ai choisie. Mais en tout cas, disons que, à un moment donné, très sérieusement, pour moi, dans ma vie, je me suis dit, il faut pas que la maternité soit un frein à mon travail et que mon travail soit un frein à ma maternité. Ce qui fait que, les choses sont longues à mettre en place. Voilà. Un film me prend plus de temps. Parce que très concrètement, dans mon quotidien, il y a plein de choses qui prennent énormément d'énergie, énormément de temps et heureusement d'ailleurs parce que je crois que la production, en tout cas pour moi tel que moi je le fais, parle de cinéma d'auteur documentaire sur des questions pas toujours très consensuelles, on va dire ça comme ça. Donc c'est une aussi certaine manière de faire des films, mais c'est aussi un certain choix de financement pour faire ces films, mais c'est aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence dans laquelle j'essaye d'être et du coup cette vie de famille me permet de tenir parce que c'est pas évident de faire financer un projet, c'est pas évident de trouver les moyens, de trouver les personnes avec qui travailler, enfin c'est long, c'est très long. c'est très long. Et j'ai l'impression que cette vie de famille, enfin, les enfants t'obligent à être dans la vie, tout simplement. Voilà, tu peux pas sombrer parce qu'il y a beaucoup de moments où c'est pas simple, en fait. D'ailleurs, dans Fragments de rêve, ben, j'étais enceinte de, c'était le 7e mois, en fait, tu vois. Et elle était là. Et je crois que ça m'a donné une espèce de, c'était, tu sais ce que c'est, les tensions auxquelles tu fais face, les problèmes auxquels tu fais face. Je filmais des acteurs sociaux qui étaient, enfin, disons que le pays vivait une certaine tension. Et le fait d'être enceinte, je crois que ça a désamorcé énormément de choses. Tu vois, quand on te voit arriver, t'as ton ventre de 7 mois, quoi. Mais même moi, intérieurement, j'étais dans une ouverture qui a fait que ce film est ce qu'il est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inclure, en fait, hein, dans le film. Tu vois, cette histoire de cette grossesse qui était là. Et cet enfant que je portais, c'est pas que mon enfant. En fait, ça, au montage, ça a pris tout le sens que ça avait, tu vois. C'est que c'était tous les enfants à venir. Et c'est dans ce sens où je te dis, à un moment donné, vraiment, ça s'est dit en moi. Il s'agit pas que l'un soit un frein à l'autre. Et en plus, on avait parcouru, je sais pas, 3500 kilomètres. C'était énorme. On avait été au sud, sur des routes où, tu sais, ça saccadait beaucoup. Je sais qu'il y avait une nuit où j'ai eu des contractions. Je me disais, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, il faut que tu te calmes un peu. Mais, je crois que ça fait que, il y a une cohérence. Je me sens assez cohérente. Pas simple, mais cohérente.
Je trouve ça fou que tu aies tourné Fragments de rêve pendant une de tes grossesses. Et j'ai l'impression que tes films sont vraiment habités par tes expériences personnelles, tes expériences politiques. Ce qui me fait te demander, comment tu choisis les sujets de tes films?
Comme à chaque fois, les films, ça a été des appels. Vraiment, j'ai pas forcément choisi de me dire, tiens, je vais travailler sur cette question ou là sur cette question. Vraiment, à un moment donné, il y a un sujet qui t'appelle, enfin qui m'appelle et qui fait que je vais plonger dedans et je vais avoir cette façon de travailler où je vais lire énormément, plus que regarder d'ailleurs, de films sur les questions hado, sur la question de le hijab. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à un moment donné où me dire bon, finalement, à quoi bon faire le film maintenant que j'ai fait le tour de la question. C'est presque plus intéressant pour moi de faire le film, et j'ai plus rien à découvrir. Et je crois que c'est ce qui fait que, en fait, c'est bien justement cette question précisément de faire le tour de la question, moi. Tu vois, d'être moi suffisamment pas informée, j'aime pas trop le mot hada, mais au clair, enfin en tout cas sur la direction que j'ai envie de prendre. Et bizarrement, je pourrais pas dire que je vais au sujet en pensant forcément à un film. Nabarra, c'était parce que j'avais fait les ateliers Varan, j'avais filmé un petit film pour Varan, et avec lequel j'étais pas à l'aise, parce que j'arrive ici en France, c'était la première fois que je passais autant de temps, j'étais venue pour des courts séjours, tu vois, et j'étais profondément déstabilisée d'être dans un environnement où je maîtrisais parfaitement la langue et où je comprenais pas en fait ce qui se disait, tu vois. Et c'est là où en fait j'ai fait le distinguo entre les codes et la langue, où tu vois qu'il suffit pas de comprendre une langue, en fait. Et puis ça m'avait beaucoup perturbé, les ateliers marrants. J'ai fait un film avec lequel en fait je me sentais pas libre, tu vois. Et donc en rentrant en Algérie, bah je me suis dit voilà, je vais chez moi, je vais faire le film que je veux. Et sur cette question-là, et comment de la question du hijab, je suis arrivée à la question de c'est quoi être une femme, tout simplement. C'est quoi être une femme dans l'espace public d'ailleurs. Hein, même s'il y a une parole encore une fois profonde, c'est pas et intime. Mais on parle pas de sa féminité intime et tout. On parle vraiment de nous, femmes, dehors, au regard des hommes, donc, forcément. Pour Fragments de rêve, hein, j'étais chez moi et c'est vraiment la question des immolations qui m'a fait commencer à écrire. Où je me disais, tous ces gens qui sont en train de s'immoler en Algérie, qu'est-ce qu'on en fait? Et j'avais écrit un texte qui n'a strictement rien à voir avec le film, d'ailleurs. Enfin, non. C'est pas vrai, mais et donc sur la question des thèmes, voilà, c'est des appels que j'ai à chaque fois et qui me font partir d'un point, arriver à un autre point pour faire un film, quoi. Après, sur Fragments de rêve, je te dis, hein, c'était vraiment l'actualité qui m'appelait, puis j'étais là à recenser tout ce qui se passait, puis j'ai écrit pour écrire, mais pour moi, en fait, Abelk, c'était ma, c'est tombé ma affaire. Ils avaient fait, ils avaient lancé le programme Crossroads, donc qui s'adressait à des réalisateurs sans producteur. J'ai envoyé le texte et j'ai eu le fond. Voilà, et c'est comme ça que je me suis lancée dans le film et que ça a pris quand même beaucoup de temps en fait. Entre le moment où j'ai commencé à écrire, mais pas un film, hein, où j'ai commencé à écrire juste comme ça. Donc après je suis tombée enceinte et d'ailleurs off le tournage. J'étais presque désespérée parce qu'on a eu tellement de problèmes, la voiture s'est arrêtée, la caméra s'est arrêtée. Enfin, et je me disais, si je tourne pas maintenant, je sais que le film n'existera pas. Je me disais, il faut à tout prix que j'ai les images et après on verra bien. Et de fait, c'est ce qui s'est passé en fait. C'est qu'on a tourné, après bah, j'ai eu ma fille et pratiquement un an et demi, je l'ai mis de côté pour commencer à le monter après. Donc au final, c'est pas une si mauvaise chose parce que j'aimais pas les images que j'avais qui n'avaient rien à voir avec le film rêvé en fait. Cette distance m'a permis d'arriver à faire le film que ça a été pour le Hirak. En fait, c'est quand il y a eu le Hirak où tout a pris du sens en fait, tout. C'était un film qui était tellement difficile à écrire, tellement difficile à tourner, tellement difficile à monter. Alors là, je te raconte pas le montage. Après, ben, il y a eu la censure. Ça a été pour moi quelque chose de terriblement violent. Et tac, tu as le Hirak qui commence. C'est comme si c'était la pièce du puzzle qui manquait, tu sais, pour que tout fasse sens.
Je rappelle que le Hirak, c'était une série de manifestations pro-démocratie qui ont eu lieu en Algérie entre 2019 et 2021, après des années d'interdiction de regroupement dans l'espace public. Donc tu as montré tes films dans ce contexte. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur leur réception à ce moment-là ?
Chofi, ça a été tellement difficile à faire que j'ai fait plein de festivals avant, hein, tu vois, avant la censure, et j'arrivais pas à le regarder. J'arrivais pas à rester en salle. Tu vois, j'y allais, je le présentais au Nourolog. C'était dur pour moi. Et j'avais le sentiment de l'imposer, en fait, intérieurement. Et donc, tu as le Hirak qui arrive, et on le montre. Et à partir de ce moment-là, c'est un film que je recevais en même temps que le public. Et je sais pas si tu te rappelles, mais l'actualité évoluait tellement rapidement. À chaque fois, il y avait... Et le film changeait de sens à chaque fois que je le montrais. Il me disait quelque chose de nouveau à moi, citoyenne. C'était pas à moi, réalisatrice. Tu vois, c'est comme si que cet objet ne m'appartenait plus et que vraiment je le recevais en tant que spectatrice. Enfin, je te dis, ça, j'étais dans le sens de ma vie, dans le sens de ce que je fais, enfin, dans... Voilà, ça avait du sens pour moi, en fait. Tout ça n'était pas vain. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que les gens qui le regardaient, ils te disaient « Oui, mais pourquoi le film, il est aussi lourd? Pourquoi il est aussi chargé et tout ?» Parce qu'il y avait quand même cette joie, tu vois, pendant cette année. Et je leur disais « Attendez, mais moi, j'ai filmé en 2013, 2014, ce film, il vous parle d'avant. » Et les gens ne percutaient pas. Pour eux, le film était fait le mois dernier, tu vois. Et c'était magique pour moi. Encore là, 10 ans après, les gens ont du mal à croire qu'on a filmé en 2011, que le film est sorti en 2014, qu'il a 10 ans. Qui a pas pris une ride, c'est triste, c'est terrible. Tu as juste envie de te dire, j'aimerais tellement que ces questions, voilà, qu'elles soient dépassées. Et après, le dernier, là, où tu te dis, j'ai envie de, voilà, d'aller sur des questions un peu moins sensibles, un peu moins touchy. On va dire ça comme ça. Et je crois que j'y échappe pas. Je pense que c'est plus mort que moi.
On est en plein dedans.
يديك النهار اللي قاعده تسلها هكا نتفرج من الضيق في النوم في الليل والله سيتي ان بون سبيكتاكل اي جافي با لا بور او فونتر كنت بون دو فيف لا ليبرتي فيف لا ليبرتي دو لاتر هومان دون سان ريسبي ا لوي سو ريسبكت لوي ميم اي دون ان بوس اي افيك تو لو موند مي اي نا با بور اي نا بور ني دي تيروريست ني دي بارون ني دو ماري جو ديسيد دو مون سان.
Alors, tu as été résidente à la Villa Albertine en 2022 et à la Casa de Velázquez en 2023 et 2024. Par exemple, par rapport à une résidence comme la Villa Albertine, comment t'en avais entendu parler et pourquoi avoir choisi que tu ferais ta première résidence dans cet endroit-là ?
La Villa Albertine, c'était dans le cadre d'un programme. La curatrice, c'était Ingone Fall. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'était des cinéastes qui vivaient en Afrique. Et donc, elle avait contacté certaines personnes. J'avais deux projets Tu vois, avant même de déposer, je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plutôt celui-là ou celui-là? On en avait quand même discuté et on était tombé d'accord que sur la question des sorcières, des emprunts culturels. En fait, j'avais jamais forcément cherché à faire des résidences avant. Tu vois, je sais pas comment te dire ça.
Qu'est-ce que ça t'a apporté?
Bah, une immense ouverture. Et une immense opportunité, bah, de faire des rencontres. D'aller sur le lieu de ton travail d'une autre manière. C'est pas du repérage. C'est-à-dire, tu te dis, on devrait vivre comme ça en tant qu'artiste. C'est ça, la vraie vie. C'est d'avoir des moyens et un confort pour pouvoir créer au mieux, quoi, dans les meilleures conditions possibles. Tu vas fouler des territoires que tu ne foulerais pas dans la vie. Et je te dis, c'est de l'ordre des rencontres, des opportunités, des possibilités, tout ce que peut t'offrir une résidence. Et d'ailleurs, la Villa Albertine, en fait, tu es seule, tu n'es pas encadrée. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tu as une équipe qui est là vraiment à ton service et à l'écoute et tu te sens portée en fait parce que ben régulièrement tu vas les voir, tu discutes avec eux, ils vont t'aider, t'orienter au niveau des rencontres et tout ça. Contrairement donc à la Casa Velázquez où tu es sur place, ce qui est quand même toute autre manière de vivre et qui pareil va en tout cas moi ça a été une magnifique chance de faire des rencontres merveilleuses avec des artistes de talent et puis il y avait une très belle énergie, symbiose, communion entre nous, tu vois, ça a été vraiment une année exceptionnelle et qui dans ma pratique, je crois, a fait que voilà, c'est quand je te disais tout à l'heure de aussi avoir confiance et tout ça, c'est que aussi intérieurement je suis passée à un autre niveau. Enfin, notre niveau, c'est pas le mot, c'est pas à notre niveau, à une autre manière de faire, je pense, ou à notre désir, voilà. Je pense que ces deux résidences m'ont permis d'accéder à un peu plus à moi-même et que mon désir de cinéma soit celui qu'il est aujourd'hui.
Donc moi, en ce moment, je navigue moi aussi dans les candidatures pour des bourses, pour des appels à projets. C'est la première année que je fais ça. Et je suis très curieuse de savoir comment tu as préparé tes dossiers pour intégrer ces résidences et comment tu as obtenu des bourses par le passé.
Je sais que pour la Villa Albertine, c'était très drôle parce que j'ai écrit le dossier et tout. Il faisait 13 pages. Et donc, j'ai une gonéphale qui me dit, il faut 3 pages. Et mince, comment... Et moi, je ne sais pas faire court, en fait. Tu vois, c'était comment je vais passer de 13 à 3. Enfin, c'était terrible. C'était très dur pour moi. Mais pour la Casa Velázquez, pareil. Donc, j'ai commencé à faire le dossier. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir quel type de profil ils vont prendre. Ou là, tu vois, je pense que ça m'aurait peut-être conditionné pour écrire. Et j'avais pas envie de ça. Pareil, j'ai écrit et tout. Et au moment de postuler, ben, tu te rends compte qu'on te donne droit à 1000 mots, ou en fait, quelque chose d'extrêmement court, et tu te dis, c'est pas possible, enfin, vous pouvez pas, je peux pas être choisie sur la base d'une page. C'était assez, assez difficile, quoi. Mais, je pense avoir eu, jusqu'à maintenant, beaucoup de chance, puisque j'ai été relativement, en fait, quand je dépose, je suis prise. Je crois que ça tient au fait, justement, à ma manière d'écrire, je pense, hein, mais peut-être que je me trompe. C'est que j'ai du mal à écrire dans les cases. Tu vois, quand c'est note d'intention, résumé, note de production. J'arrive pas à écrire comme ça, tu vois. Je crois que ce qui transparaît à la lecture de mes dossiers, c'est ma voix, entre guillemets. Tu vois, il y a quelque chose de ta personnalité qui va ressortir dans ton texte, qui fait que là, oui, ça va être intéressant, je pense. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, je sais pas faire autrement. Que d'écrire comme je sais écrire et pas écrire comme on attend de nous qu'on écrive.
Je voulais te lire un extrait de ta note d'intention pour la Villa Albertine parce qu'ils mettent ça sur leur site. Donc tu dis « J'habite un pays, Algérie, qui de par son histoire, son présent et son futur, fait de nous des citoyens. C'est par le cinéma que j'ai su approcher la dimension humaine de cette société contrariée, où les désirs qui s'égosillent à contre-courant rendent fous de liberté. » Où les rêves de justice condamnent à une résistance si profonde que même vulnérable et apathique face aux menaces, elle continue de vibrer secrètement dans les corps. Ces corps de femmes, ces corps d'hommes en révolution constante, ne cessent de dire la beauté et les fêlures des miens. J'essaye de faire un cinéma qui nous ressemble, intime, politique et poétique, qui s'offre en partage, tel un poème tragique.
Ouais, ça, c'est mes envolées lyriques. Hein. Des fois, je me barre comme ça, il faut que je me calme. Maintenant que je t'entends bien, je me rends compte que c'est d'une... N'importe quoi.
Mais incroyable.
Des fois, je m'emporte.
Pourquoi tu l'as écrit comme ça? Comment t'étais dans quel état quand t'as écrit ce passage?
Bah, pour en revenir au mot sincérité, c'est ça. C'est que je me suis mise dans ce que je fais, dans le sens même de ce que je fais. Pourquoi c'est ces gens-là que je vais filmer? Et réellement, je sens qu'on est condamnés à nous battre. C'est une espèce de terre comme ça qui fait que tu peux pas te reposer sur tes lauriers. Bah, c'est inscrit dans notre histoire, la lutte, quoi. En fait, on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'advenir à ce statut de citoyen, tu vois. Il faut qu'on y arrive. Je crois qu'il y a un appel à la liberté qui est énorme. Alors, ben, c'est comme ça. Il y a des moments de l'histoire où ben, on dort, mais on ne meurt pas, en fait. Il y a toujours des sursauts, il y a toujours des réveils. Mais j'écris de façon sincère, tout simplement. J'écris et ben, ça sort des tripes et c'est comme ça que ça sort.
Tu as mentionné ton projet actuel autour de Taos Amrouche, qui est, je le rappelle, une écrivaine algérienne et chanteuse de talent, qui collectait et interprétait des chants kabyles et qui a grandement contribué à l'histoire culturelle algérienne et amazigh. Qu'est-ce qui t'a attiré, Bahia, vers cette histoire et comment ça s'intègre dans ton parcours cinématographique plus largement?
En fait, ça avait à voir avec la thématique de mon travail. C'était vraiment en lien direct avec le groupe de jeunes féministes, Witch, qui jette un sort à Wall Street 1968 et qui entonne un chant berbère sacré aux yeux des sorcières algériennes. Tu vois, et tu te dis, attends, enfin, je lis cette phrase et vraiment tout s'arrête et tout est parti de là. Voilà, pour répondre à ta question tout à l'heure sur comment les films et pourquoi les films. Et donc, je dépose le dossier, je suis prise. Et au retour de New York, c'était en automne 2022. En fait, pareil, hein, c'était de fil en aiguille. J'arrive en Espagne sur la question et de la chasse aux sorcières en Espagne, sur les liens tellement proches entre le Pays Basque et la Kabylie. Enfin, ça faisait sens que je dépose une demande à la Casa Velázquez et je suis prise et j'y vais, c'est très bien, et je décide que bah je vais aller enquêter, je vais pas rester à Madrid, surtout pas. Et mais en même temps, tu vois, il y avait ce truc que la seule qui pouvait peut-être faire voyager un chant en 1968, c'était Taos Amrouche, et je savais qu'elle avait été à la Casa. Donc je leur demande à voir qu'est-ce qu'ils ont dans les archives. Et on me sort un dossier quand même qui était assez conséquent. Et je tombe donc sur cette correspondance et je peux pas en sortir, tu vois. Déjà, il fallait décrypter l'écriture et ça prend un mois, deux mois, trois mois et j'arrête pas de me dire, bon, là, il faut que tu arrêtes avec ça, c'est pas ton sujet, il faut que tu reprends sur tes sorcières et tout. Et il a fallu que je consente, en fait, intérieurement à ce que mon projet dévie. Ce qui était pas évident, tu vois. J'étais dans ce mouvement comme ça, intérieur de, oui, j'ai envie de découvrir, mais en même temps, non, je suis pas là pour ça. Et il a fallu beaucoup de temps pour que, justement, ça bascule. Après, je savais rien d'elle, ou très peu. Et ce n'est que à la fin de l'année, voire là maintenant, que j'arrive à faire le lien entre les deux, à recouper et cette première quête entre guillemets de sorcière et cette découverte aussi entre guillemets de Taos Amrouche. Et en fait, le fait d'avoir été dans une résidence avec des artistes plasticiens entre guillemets dans leur majorité, bah ça m'a amené à faire du collage, ce que j'aurais jamais fait dans la vie, je pense. Et j'avais quelques scènes comme ça de la vie de Taos Amrouche que je trouve faciles. Qui, moi, me touchait, et j'ai commencé à chercher des images, découper, coller. Et en fait, le fait de faire avec les mains, tu vois, tu es dans quelque chose de très artisanal, en fait, où tu touches avec tes mains du papier, où tu coupes, tu colles. J'ai pris énormément de plaisir à faire ça, et puis c'était bien, tu vois, tu entends sa voix, elle parle, ou alors ben, pendant que tu découpes. Mais au final, tu vois, tous ces collages mis les uns à côté des autres, bah, j'étais déjà dans un univers de mon film. Et c'est dans ce sens où je te dis, en fait, être dans suffisamment de sérénité et de confiance pour pouvoir se laisser aller, tu vois. Et pour pouvoir créer cet univers qui est le mien, puisque au final, je crois que c'est tout ce qu'on attend, en tout cas, d'un cinéaste. C'est juste qu'il nous fasse entrer dans son monde. Et je pense que, voilà, c'est pas mal. Quand je vois d'où j'ai commencé avec le Capital Confiance, Mekanoualou, et où j'avais besoin de dire des choses, tu vois. J'avais vraiment des choses à dire, pas de l'ordre de la revendication, hein, mais en tout cas, je sais que Hnabala, pour moi, c'était hyper important que ces mots soient entendus et qu'ils soient dits. Tu vois, sur Fragment de rêve, ben, pareil, cette parole, il fallait aller voir ces jeunes et j'avais envie de les entendre, tu vois. Là, c'est pas... Bon, après, c'est pour une chanteuse, j'allais dire. Et c'est faux, d'ailleurs. C'est pas que j'ai pas envie de l'entendre. C'est faux. Parce que c'est une autrice et c'est une cantatrice et c'est... Voilà, ce sont ces voix multiples qui sont magnifiques avec lesquelles je vais pouvoir jouer. Tu vois, c'est une femme de radio. Mais tu vois, c'est la première fois que je parle d'elle, hein, et que je parle de ce projet.
C'est super, on t'écoute en parler presque en avant-première, en fait. Et d'ailleurs, est-ce que tu as commencé à l'écrire plus précisément ?
J'ai pas encore commencé, mais les quelques pistes qui sont en train de se dessiner, elles sont... J'ai envie de la rencontrer. Et de se dire de cette rencontre, bah, va naître le film, quoi. Mais là, l'idée, c'est d'aller creuser la relation, enfin, de creuser le lien, quoi, pour que quelque chose affleure. Et dans le sens où ça sera pas un biopic, mais ça sera mon film.
Et si tu pouvais revenir en arrière, donner un conseil à ton toi, plus jeune, réalisatrice, cinéaste, débutante, tu lui dirais quoi?
Bah, m'écouter plus. Je crois que j'aurais dû vraiment m'écouter. Sur plein de questions, à plein de moments, et me faire confiance. J'ai eu énormément de chance d'être entourée de personnes magnifiques, quoi, dans ce chemin. Vraiment, et d'être à chaque fois portée par des gens qui étaient heureux d'être à mes côtés, qui étaient heureux de porter avec moi les films que j'ai faits. Et cette qualité humaine que j'ai eue autour de moi, elle a pas de prix. J'ai beaucoup de chance, mais c'est aussi quelque chose que j'ai choisi. C'est une manière de travailler avec certaines personnes, sur certaines questions et qui font que les personnes qui m'ont entourée et qui, je pense, vont continuer à le faire m'ont toujours tout donné d'elles-mêmes. Et c'est dans ce sens où je te dis, je crois que c'était... Voilà, les limites, c'est d'abord moi qui les ai posées parce que j'avais autour de moi des personnes qui étaient vraiment engagées. C'est merveilleux. C'est une vraie chance. Donc j'espère que ça va continuer et je pense parce que c'est important. En fait, c'est des moments tellement précieux que j'ai à chaque fois envie de bien les vivre, tu vois, et c'est de vrais moments de bonheur, d'échange, de partage, et tu te dis autant que ça ne soit que du bonheur, quoi. Même si ça va pas sans des difficultés, sans des tensions, mais c'est une vraie chance. Donc à chaque fois, à chaque étape, je sais que c'est très important pour moi qu'on donne tous le meilleur. Parce que c'est un travail d'équipe et c'est pour ça que j'aime ce métier, parce qu'on est ensemble.
Merci Beria pour ton temps et pour avoir partagé cette discussion avec moi dans le podcast Raouillette. J'ai beaucoup appris de toi, j'ai vraiment apprécié tout ce que tu as partagé sur ton expérience, tes réflexions, et ça permet vraiment d'en savoir plus sur ton processus d'écriture, sur les défis que tu as traversés et que tu continues de traverser. Je remercie également nos auditrices et auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette conversation. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter la suite des épisodes. Et je vous dis à bientôt.